Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saféréol 94.2, l'émission qui compte. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Lorsque vous entendrez cette émission, mon technicien et moi-même serons bien loin, nous serons aux antipodes quelque part en Nouvelle-Zélande, mais vous voyez que nous pensons à vous et que vous pourrez nous écouter, comme d'habitude, le quatrième mardi du mois de janvier et de février. Pour cette première émission de 2019, je voudrais partir sur les terres écossaises d'où était originaire la conteuse Fiona MacLeod qui vient de nous quitter. Fiona, c'était une grande conteuse, mais c'était aussi une personnalité très chaleureuse et très attachante. Et parmi les contes dont elle a publié des versions en français, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Jack et de la sirène. Jack, c'était un jeune garçon qui vivait dans un village de pêcheurs au bord de la mer. Le père de Jack avait été pêcheur et un jour de tempête, il avait fait naufrage, il était mort. Jack avait été donc élevé par sa mère. C'était un brave garçon ce Jack et il aidait sa mère tant qu'il pouvait. Il essayait aussi de faire des petits boulots pour ramener un peu d'argent à la maison. Seulement voilà. Jack était toujours en train de rêvasser. Alors, par exemple, s'il aidait à décharger des caisses de poissons, eh bien, il y a toujours un moment où il lâchait une caisse sur le pied de quelqu'un. Ou s'il aidait à démêler les filets, il les emmêlait plus qu'il ne les démêlait. S'il aidait sa mère à essuyer la vaisselle, il y avait toujours un moment où il laissait tomber une assiette par terre. Ce qui fait que sa mère lui disait « Oh, écoute mon gars, t'as pas bien la tête à ce que tu fais, va donc, laisse, je vais finir toute seule, va donc faire un tour. » Jack passait donc beaucoup de temps dehors. Il aimait se promener sur la plage. Sur la plage, il y a toujours des choses très intéressantes à ramasser. Il y a des galets de couleurs, il y a des morceaux de bois sculptés par la mer. Il y a aussi des coquillages et puis des fois, il pêchait. Et il aimait aussi juste se promener comme ça et admirer les reflets du ciel dans la mer ou de la mer dans le ciel, toutes les couleurs de gris, de bleu, de vert que pouvait prendre le paysage marin. Et son endroit favori, lorsqu'il avait le temps, c'était un lac de mer. C'est-à-dire, c'était un endroit où à marée haute, la mer rentrait par un petit goulet, et elle remplissait un bassin qui formait donc une sorte de lac d'eau salée. Et là, Jack pouvait rester des heures à regarder l'eau qui était calme et délicatement colorée. Et un matin, où Jack, comme ça, avait marché jusqu'au lac de mer, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu, ou plutôt quelqu'un. Sur un rocher, il y avait une sirène. On aurait dit que le soleil éclaboussait ses cheveux d'or. Sa queue de poisson argentée brillait, ses yeux paraissaient bleus, gris, verts, et l'eau, comme si l'eau et le ciel s'y reflétaient en même temps. Jack est resté là, bouche ouverte, immobile, à contempler la sirène qui, elle, faisait pas du tout attention à lui. Elle peignait sa longue chevelure avec un coquillage et elle se mirait dans l'eau du lac comme s'il n'y avait personne. Jacques ne bougeait pas et peut-être il serait resté là toute la journée, toute la nuit, mais à un moment, pouf, la sirène a plongé, elle a disparu. Le jeune homme est rentré chez lui en pensant à la sirène qui était tellement belle. Et une fois arrivé à la maison, il a dit à sa mère, « Maman, j'ai vu, et tu sais, comment on fait pour attraper les sirènes ?» Oh, sa mère n'a pas mis très longtemps à lui tirer les vers du nez. un jacadi qui voulait attraper la sirène et se marier avec elle. Mon fils n'y pense pas. Les sirènes, tu sais, elles sont pas comme nous. C'est beaucoup trop dangereux, et puis ça finit toujours mal, ces histoires-là. Tous ceux qui l'ont fait, eh ben, ça leur a porté malheur. Oublie ça, et tu veux une tasse de thé ? La mère a serré les lèvres, elle a refusé d'en dire plus. Jack a essayé d'oublier la sirène, mais il ne pouvait pas. Il a pensé à elle toute la soirée, et toute la nuit, il est resté les yeux grands ouverts dans le noir. Le lendemain, il n'a pas reparlé à sa mère de la sirène, il avait vu que ce n'était pas la peine, mais par contre, il a filé chez sa tante, la sœur de sa mère qui habitait dans le même village. La tante Rosie était restée célibataire, elle aimait beaucoup son neveu Jack. Et elle habitait une des dernières maisons du village. Mais elle avait un talent particulier. C'est toujours elle qu'on allait voir quand on avait perdu quelque chose. Elle posait juste 2-3 questions, puis elle disait « Oh, bah tes clés, oui, tu les retrouveras sous ton oreiller. » Et c'était incroyable. Eh bien, ça se passait toujours comme elle avait dit, et ceux qui avaient perdu quelque chose, grâce à Rosie, ils le retrouvaient. Jack, donc, ce jour-là, est allé voir sa tante, et il lui a dit... Ben, il ne lui a pas dit grand-chose parce qu'il avait à peine passé la porte que la tante, elle savait déjà. Elle lui a dit « Mon petit Jack, tu devrais oublier cette sirène. » Parce que, tu sais, on raconte effectivement que certains humains ont réussi à en épouser une en cachant sa peau de poisson. Mais ces histoires-là, elles se sont toujours très mal finies pour le gars. N'y pense plus, rentre chez toi et tu veux une tasse de thé ? Jack, lui... Ben non, il ne pouvait pas oublier la sirène. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous un jour d'aimer si fort que rien ni personne ne puisse vous arrêter. Jack, il en était là. Il voulait sa sirène. La tante a soupiré. On ne peut pas mettre une tête sage sur de jeunes épaules. Alors je te le dis... « D'accord, mais c'est tant pis pour toi. Si ça tourne mal, tu viendras pas te plaindre. »« Oui, a dit Jack. Bon. Eh bien, écoute, la seule façon que tu as d'attraper une sirène, c'est d'aller voir Rory, le fabricant de filets. Ah » À l'évocation de Rory, les cheveux de Jack se sont dressés sur sa tête. Oh, Rory, il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Jack savait très bien qui c'était. C'était un fabricant de filets qui vivait dans une grotte au bord de la mer. Et parfois, on le voyait gesticuler tout seul sur la plage avec ses longs cheveux gris qui volaient dans tous les sens, sa barbe en broussailles. Mais Rory, ce qu'il avait de plus effrayant, c'est qu'il était aveugle. Et ses yeux roulaient de façon très étrange dans ses orbites et... Lorsqu'il vous regardait sans vous voir et sans avoir l'air de vous regarder, c'était comme si ses yeux glauques perçaient jusqu'au plus profond de vous-même. Jack avait très peur de Rory et dès qu'il l'apercevait, du plus loin qu'il le voyait sur la plage, il faisait demi-tour et il partait en courant. Il s'enfuyait à toutes jambes. Et voilà que sa tante lui disait que le seul moyen d'attraper la sirène de ses rêves, c'était d'aller voir Rory et de lui demander un filet magique. Jack avait peur de Rory, mais Jack était amoureux. Alors, il a mis sa peur dans sa poche. Il a remercié sa tante qui voyait tout ça d'un assez mauvais œil. En tremblant de tous ses membres, en claquant des dents, il s'est dirigé vers la grotte de l'aveugle. La grotte s'ouvrait devant lui, immense et noire, noire comme un four. Jack a avancé d'un pas, puis de deux pas, puis il a tourné les talons et s'est enfui en courant. Seulement, Jack ne pouvait pas oublier sa sirène. Alors le lendemain, il y est retourné. Ah, il a fait un pas, deux pas, Puis quand il a senti ses jambes qui tremblaient, quand il était sur le point de tourner les talons, il a fermé les yeux très fort, il a vu la sirène avec ses cheveux éclaboussés de soleil. Elle l'a vu, ses yeux couleur de mer et de ciel. Il a fait un pas en avant encore. Ça sentait mauvais, ça sentait le moisi, le renfermé, le vieux poisson pourri. Qu'est-ce que tu fais là ? Rory a surgi, terrifiant, juste à côté de lui, roulant des yeux. Jack, qui avait ouvert les paupières, les a vite refermées. Monsieur Rory, je voudrais juste un filet magique pour attraper une sirène. Une sirène ? Mais tu n'y penses pas, rentre chez toi ! Jacques s'est concentré, il a serré les dents, il a enfoncé ses pieds dans le sable, bien décidé à mourir sur place ou à repartir avec le filet magique. À ce moment-là, Rory s'est mis à rire et son rire résonnait dans la grotte comme le tonnerre. Puis il s'est enfoncé dans l'obscurité. Jack l'a entendu qui fouillait dans un bric-à-brac d'objets qui s'entrechoquaient. Et il est revenu avec, oh, c'était pas bien grand, c'était un petit filet qui n'était pas plus grand qu'un filet à papillon. Ouais, il l'a tendu à Jack, il lui a dit, tiens, prends ça et bonne chance mon garçon. Mais viens pas te plaindre si ça tourne mal, hein.
Oui, merci monsieur.
Jack est parti sans demander son reste avec le filet et ses pieds flottaient au-dessus du sol. Il a couru, bien sûr, tout droit jusqu'au lac de mer.
La sirène était là. Elle était sur son rocher, encore plus belle que dans tous les souvenirs que Jack avait d'elle.
Elle ne faisait toujours pas du tout attention à lui.
Jack, tout doucement, a posé le petit filet devant le goulet d'entrée du lac de mer. C'était vraiment un filet magique, parce que le filet s'est agrandi jusqu'à boucher exactement l'ouverture. Le garçon s'est assis et il a attendu. Il s'est dit que lorsque la sirène voudrait retourner dans la mer, elle tomberait dans le filet et que lui, il n'aurait plus qu'à l'attraper. Seulement voilà, cette histoire se passe en Écosse. Et en Écosse, souvent, il y a du brouillard. Voilà le brouillard qui tombe. Un brouillard tellement épais qu'on ne voit même plus le bout de ses pieds.
Bon, ça ne fait rien, dit Jack. Je l'entendrai bien tomber dans le filet, ma sirène. Il est resté là, dans le brouillard, à attendre. Le temps passe lentement quand on attend. Et Jack avait un peu froid, mais il n'osait pas bouger. Il avait peur de faire peur à la sirène.
Et puis, enfin, après ce qui lui a semblé une éternité, elle a entendu « splitch, splitch », ça se débattait dans le filet. Alors vite, elle est là.
Jack a resserré les cordes du filet. Elle l'a sorti de l'eau. Bien sûr, il ne voyait rien. Mais le filet était tout couvert d'algues et puis avec le brouillard, c'était lourd. C'était plus lourd que ce à quoi il s'attendait. Et il a jeté le filet sur son épaule. Puis cette odeur, c'est bizarre. Il pensait que sa sirène allait sentir bon, une odeur de mer délicate, mais non, ça sentait un peu le poisson pourri. Bon, enfin bon, Jack s'est dit que ça devait être les algues, et il est rentré à la maison dans le brouillard, tout courbé sous le poids de son filet. À la maison, il a trouvé sa mère et sa tante en train de boire le thé.
Je l'ai, ma sirène. Vous allez voir comme elle est belle.
Et Jack a posé tout doucement le filet par terre. Il a défait les lacets. Le filet s'est ouvert, mais qu'est-ce qui est sorti du filet ? Oh non, c'était pas du tout la sirène. C'était une vieille sorcière de mer qui avait un nez crochu de sorcière avec des verrues au bout, qui avait des cheveux qui se dressaient autour de sa tête comme des serpents. Elle avait une queue de poisson toute moche, toute vieille, toute pourrie. Et la sirène, la sorcière de mer, a ricané. « Tu m'as attrapée, mais c'est moi qui t'ai attrapée. Maintenant, tu vas être mon esclave et tu devras faire tout ce que je te dirai. Sinon, je ferai tomber tous les cheveux qui sont sur ta tête et tous ceux qui sont sur la tête de ta mère et tous ceux qui sont sur la tête de ta tante. Ah. Fais-moi couler un bain, installe-moi dans la baignoire et va me chercher du poisson. »
Jack était horrifié, il a dit « Mais je vais vous rejeter dans la mer tout de suite. » Et la sirène a ricané, elle a dit « Ah, tu ne peux pas, je me ferai tellement lourde que tu ne pourras même pas me soulever. » « Oh, mon petit Jack !» a dit la tante. « C'est toi qui as voulu attraper cette sirène. Nous, on t'avait prévenu. Alors ta mère et moi, on va aller dans ma maison jusqu'à ce que tu te sois débarrassé de cette sorcière. » Hein, la mère et la tante de Jack sont partis. Jack s'est retrouvé tout seul avec la sorcière. « Pauvre Jack, quelle vie !» La sorcière, et il fallait lui gratter le dos, il fallait lui raconter une histoire, lui pêcher du poisson. Jack, éteins la lumière, allume la lumière, l'eau est trop froide, apporte de l'eau chaude, j'ai faim, gratte-moi la tête, raconte-moi quelque chose. Et 5 ou 6 fois par jour, Jack devait aller à la mer pêcher un saut de poisson pour la sorcière. Au bout de 3 semaines de cette vie, il est complètement épuisé. En plus, on dirait qu'elle ne dort jamais, cette sorcière. Et le garçon, lui, a les yeux rouges, les paupières qui tombent. Il se demande comment faire, comment se tirer de ce guépier-là. Puis enfin, heureusement, un jour, la sorcière s'endort pour une petite sieste. Jack en profite. Il court vite jusqu'à la mer. Il pêche un saut de poisson et puis il va chez sa tante. Là, il la voit tranquillement installée avec sa mère. Rosie, au visage de son neveu, elle comprend qu'il est à bout. Et qu'il est temps peut-être de l'aider un peu.
J'en peux plus, il faut que je me débarrasse de cette sorcière.
Écoute, mon petit Jack, et il faut que tu fasses exactement ce que je vais te dire. Il faut que tu coupes les cheveux de la sorcière, qu'avec ses cheveux tu lui lies les mains dans le dos, et alors elle n'aura plus aucun pouvoir et tu pourras la rejeter à la mer. Jack remercie sa tante, il court vite à la maison, la sorcière est déjà réveillée.
« Où étais-tu? J'ai faim, donne-moi à manger !»
Jack lui donne le seau de poisson. Pendant qu'elle mange goulûment, il attrape les ciseaux de couture de sa mère et saisit brusquement les cheveux de la sorcière et slip, snap, 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 il lui coupe les cheveux. La sorcière hurle, elle se débat, mais déjà Jack lui a lié les mains dans le dos avec les cheveux. Alors la sorcière, on dirait qu'elle se recroqueville dans le fond de la baignoire. Jack l'attrape et la jette dans le filet. Ah, il soulève le filet sur ses épaules. Il n'a aucun mal à le soulever cette fois. Et retourne vers la mer. La sorcière murmure, « Remets-moi dans la mer, je te promets de ne plus jamais embêter personne. » Jack court aussi loin qu'il peut et puis il jette le filet et la sorcière disparaît au fond de l'eau. Le garçon reste là, regardez les bulles qui remontent à la surface. Blou, blou, blou. Et tout d'un coup, de l'eau émerge une tête. Est-ce que la sorcière va remonter? Non. Non, ce n'est pas la sorcière, c'est la sirène. La sirène, ses cheveux brillent au soleil et ses yeux reflètent toutes les couleurs de la mer. Cette fois, elle regarde Jack dans les yeux et elle lui dit « Jack, tu as voulu m'attraper et tu as vu ce que tu as attrapé. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de ne plus jamais chercher à attraper une sirène, tu sais. Moi, je suis une fille de la mer, toi, tu es un garçon de la terre. Et un jour, tu trouveras une jeune fille et puis tu te marieras avec elle, vous aurez des enfants et vous serez heureux. » Et la sirène, plouf, elle a disparu sous l'eau. Jack est rentré à la maison. Il a trouvé sa mère en train de préparer le thé du soir. Tout cela s'est passé il y a bien longtemps. Maintenant, les sirènes ont disparu. À moins qu'il n'y ait encore ici ou là un jeune homme ou une jeune fille assez poète pour pouvoir en rêver.
When they sit around all day, this old woman I knew, I used to go over there, sit with her. She'd be sitting around in a rocking chair, talking to herself. And she used to say, sometimes the cold gets in my bones so bad till I just don't think I can go on. Yeah, and for a little while, well, I don't care if my days are coming to an end. I'd just as soon be gone sometimes. Sometimes the night comes down on me and I know what's ahead. An evening in this cold old house with no one to say goodnight to me when I go to bed. An evening in this cold old house with no one to say goodnight to me when I go to bed. Sometimes I wonder why I stay, what am I waiting for? My children are grown and gone away, they got children of their own now, don't need me anymore. In the winter when the streets are bare, there are nothing much to see. I just can't help missing and thinking about that kindly man that one old winter time came and took away me. And then one morning, another spring is there outside my door. Things are blooming, birds are singing, and suddenly, yes, well, I ain't sad. Fine with me, really, and I'm thankful for seeing another spring. It's gonna be better this time. Another spring, it's gonna be groovier this time.
Another spring, Nina Simone pour notre pause musicale. Et voici une histoire britannique. La maman de Jim est en train de mourir. Le médecin a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Jim, les yeux baissés, sort sur la plage et marche, ses pieds s'enfoncent dans le sable. Dès qu'il voit un galet, il shoote dedans. La plage est déserte. Puis soudain, il voit quelqu'un qui marche dans la direction opposée. Une longue silhouette enveloppée dans une cape noire, le capuchon rabattu sur son visage. Arrivée à sa hauteur, la grande femme s'arrête. « Jeune homme, pouvez-vous m'indiquer comment aller chez les Beanstalk, je vous prie ?» Le capuchon glisse légèrement et Jim entrevoit les orbites creuses. Jim, c'est un garçon vif et intelligent. Il comprend tout de suite que c'est la mort qui est en face de lui. La mort qui vient chercher sa maman. Qui êtes-vous ?
Je suis la mort.
Je ne vous crois pas. Vous devez être une voleuse. Mais non, je suis la mort. J'ai beaucoup de travail. Ne me fais pas perdre mon temps et dites-moi comment aller chez les Beanstalk. Si vous voulez que je vous le dise, vous devez me prouver que vous êtes réellement la mort. La mort a soupiré. « Bon, d'accord, mais dépêchons-nous, que voulez-vous que je fasse ?»« Si vous êtes vraiment la mort, vous devez pouvoir occuper tout le ciel. » Alors la mort s'est mise à grandir. Le ciel est devenu tout noir, comme si une nuit sans étoiles recouvrait la terre. Puis, la mort a repris sa taille normale. Elle a dit à Jim, « Bon, alors vous avez vu ?»«
Quoi ?» a dit Jim, tu n'as rien vu du tout, c'était tout noir.
Non, vous devez faire autre chose. Si vous êtes réellement la mort, vous devez pouvoir crier si fort que les pierres de la falaise tombent. Alors la mort a crié. La plage a tremblé, les poissons ont sauté hors de l'eau et tous les oiseaux se sont envolés. Jim a secoué la tête. Ça ne va pas non plus. Ma maman, quand elle veut, elle crie beaucoup plus fort que ça. La mort se commençait à s'impatienter. Jim a fait semblant de réfléchir, puis il a dit, en sortant une noix de sa poche. Si vous êtes réellement la mort, vous devez être capable de rentrer n'importe où.
Vous devez être capable de vous rendre si petite que vous rentrerez dans cette coque de noix. Avec son couteau, le garçon a fendu la noix en deux. Il a enlevé les cerneaux à l'intérieur et il a montré la coque vide à la mort. « Bon, mais finissons-en, » a dit la mort. Elle s'est mise à rétrécir jusqu'à être si petite qu'elle s'est couchée dans la coque de noix. Alors vite, Jim a replacé l'autre moitié de la coque par-dessus et il a attaché les deux moitiés ensemble avec une ficelle. La mort était attrapée. Jim est retourné chez lui. Sa maman était levée et chantonnait dans la cuisine. « Jim, je vais beaucoup mieux, mais je suis morte de faim. S'il te plaît, va donc chez le boucher acheter du bacon. » Jim a marché joyeusement jusqu'à la boucherie. Le boucher était sur le pas de sa porte, le front couvert de sueur. « Bonjour monsieur, je voudrais du bacon, s'il vous plaît. » « Mon petit Jim, » a murmuré le boucher, « je ne sais pas ce qui se passe, mais j'essaye de tuer le cochon et il n'y a pas moyen. »« Mince, bah alors je vais prendre à demi-poulet, s'il vous plaît. » Bah, « c'est pareil avec les poulets, j'y arrive pas non plus. Tiens, bah viens voir si toi tu y arrives. » Jim a suivi le boucher jusqu'à l'étable et il a pris le grand couteau. Il a essayé de saigner le cochon, mais on aurait dit que le couteau devenait du caoutchouc. Il était tout mou. Et il n'y avait pas moyen de trancher la gorge du cochon. Alors il a coupé la tête du poulet, mais la tête pas plutôt coupée, elle revenait sur le cou et le poulet était vivant et gaillard comme avant. Jim a haussé les épaules, il a rendu le couteau au boucher et est rentré chez lui. En arrivant, il a dit à sa mère, « Maman, c'est bizarre, le boucher n'arrive pas à tuer les cochons ni les poulets. » Maman a regardé son fils, elle le connaissait bien. Mais elle n'a rien dit d'autre que « Bah, ça fait rien, alors va chercher des légumes, on va faire une bonne soupe. » Jim est descendu au potager. Il a essayé d'arracher une carotte. Mais quand une moitié de la carotte a été hors de terre, on aurait dit qu'une force la tirait dans l'intérieur du sol et elle était de nouveau plantée avec juste les fans qui dépassaient. Jim n'a pas non plus réussi à ramasser des pommes de terre ni des haricots verts, pas même à cueillir une pomme sur le pommier. Alors il est revenu chez lui, il a raconté à sa mère ce qui venait d'arriver. La maman l'a regardé avec un petit sourire. Elle a dit, « Bah, ça ne fait rien, nous mangerons plus tard. » Les jours suivants, les choses allaient de mal en pis. Jim, sa maman et tout le village avaient faim, mais tellement faim, les gens ne pouvaient pas se nourrir. Ouais, par contre, les mouches, les moustiques, les puces se multipliaient. On aurait dit qu'ils trouvaient leur nourriture, eux. Ouais, ils tournaient autour des gens et les tourmentaient terriblement. La maman de Jim a dit à son fils, « Je ne sais pas ce qui se passe pour que le monde soit si étrange, mais ça ne m'étonnerait pas que tu y sois pour quelque chose, mon garçon. » Jim a regardé par terre et il a dit à sa mère, « J'ai rencontré la mort qui venait te chercher, alors je l'ai enfermée dans une coque de noix. » « Mon fils, » a dit la maman de Jim en le serrant fort contre elle, « ça ne peut pas continuer comme ça, tu sais. Tu dois libérer la mort. » Elle lui a donné un long baiser, puis elle a ouvert les bras. Jim avait les yeux pleins de larmes. Il a serré sa maman contre lui. Elle est partie en courant. Elle a marché un moment sur la plage, dans son poing droit, et il serrait la coque de noix. Enfin, il s'est décidé. Elle a pris la noix, et elle a coupé la ficelle. La mort est sortie d'un bond. Elle a repris la taille d'une femme. « Merci, Jim », a-t-elle dit aimablement. « Maintenant, tu as sans doute compris que je ne suis pas l'ennemi de la vie. » Mais que nous sommes comme les deux moitiés de cette noix. Sans moi, la vie n'existerait pas. Jim a soupiré, il a montré la direction de sa maison. La maison des Beanstalk est par là. Merci Jim, à un de ces jours, a dit la silhouette noire. Et en un clin d'œil, elle a disparu. Jim est resté un moment sur la plage à regarder les vagues qui allaient et venaient, qui allaient et venaient, qui allaient. Et venait, au coucher du soleil, il est rentré chez lui. Sa maman était allongée sur le lit, un doux sourire sur le visage. La mort était passée par là. Et puis, elle était partie s'attaquer aux poules et aux cochons du boucher, aux légumes du potager, aux mouches, moustiques, puces et tiques qui, sinon, nous empoisonneraient l'existence. Et qui avaient proliféré durant sa captivité forcée. Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saféréol 94.2 le quatrième mardi du mois à 11h? Les références des histoires d'aujourd'hui. Jack et la sirène. Une histoire, une version de Fiona MacLeod. Voilà la référence. Donc pour Jack et la sirène, c'est dans l'édition, le livre Cœur de conteur, d'après Scottish Traveller's Tales. Et en ce qui concerne la deuxième histoire, c'est une version de Tim Bowley, audition OQO, d'après un conte britannique. Merci et au mois prochain pour Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?